Bonjour et bienvenue, 9h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la banlieue sud de Beyrouth, qui abrite des positions du Hezbollah pilonnées par l'armée israélienne. Ce matin, de nouveaux bombardements massifs l'ont frappé. Le premier ministre libanais appelle à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Israël qui, par ailleurs, se prépare à commémorer l'attaque du Hamas il y a un an. La question des otages continue de mobiliser dans l'État hébreu. Reportage de Michel Paul à suivre. Au sommaire également, Donald Trump de retour à Butler, en Pennsylvanie, où il a failli être assassiné. Cet été, en Belgique, la polémique déclenchée par les propos du pape sur l'avortement ne retombe pas. Et en Côte d'Ivoire, le poste de bâtonnier revient pour la première fois à une avocate. Demain, lundi 7 octobre, marquera le premier anniversaire de l'attaque d'Israël par le Hamas. L'armée israélienne est actuellement en état d'alerte renforcée par crainte d'attentat. Dans un message à l'occasion de cet anniversaire, le président israélien a dénoncé, je cite, « la menace permanente que font peser l'Iran et ses mandataires terroristes ». Les Israéliens, eux, restent massivement mobilisés par la question des otages. Reportage de Michel Paul à Jérusalem.
C'est la tradition, au moment de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, des sonneries de chauffard, des cornes de bélier, symbole d'un examen de conscience. Pour David Head, professeur de philosophie, le sort des otages est une grande tragédie.
Je ne crois pas que les otages reviendront. Je pense que le gouvernement a décidé de les sacrifier pour continuer la guerre. La poursuite de la guerre est tellement importante pour Bibi, qui ne renoncera ni au Liban, ni à Gaza.
Chaim Peri, militant de la paix, enlevé le 7 octobre, a été tué dans le sud de la bande de Gaza et son corps rapatrié à la fin du mois d'août. Son petit-fils, Mei Albini Peri, accuse directement le premier ministre israélien.
Netanyahou est au pouvoir depuis 15 ans ou quelque chose comme ça, et tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de rester en poste, que ce soit avec la réforme judiciaire et maintenant la guerre et la question des otages. De toute façon, on sait qu'il n'a pas vraiment l'intention de ramener les otages.
De nouveaux rassemblements sont prévus ce lundi pour marquer le premier anniversaire de ce que l'on appelle en Israël le samedi noir. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Voilà pour Israël. On écoute maintenant un point de vue palestinien sur ce premier anniversaire. Mostafa Barghouti est un homme politique palestinien. Il condamne fermement la mort de toutes les victimes civiles. Mais pour lui, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023.
Le 7 octobre n'est pas le point de départ. C'est le résultat de la brutalité israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Avant le 7 octobre, on avait 70% des Palestiniens en exil forcé. 76 ans d'exil. Avant le 7 octobre, il y a 57 années d'occupation de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem. Avant le 7 octobre, il y a un blocus israélien imposé à Gaza durant 17 ans. Donc, faire croire que l'histoire a commencé le 7 octobre, c'est faux. Le 7 octobre, c'est le jour où 76 ans d'injustice ont fini par exploser. À Gaza, Israël ne mène pas une guerre, elle commet un génocide. 80 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur Gaza. C'est l'équivalent de 4 bombes nucléaires, comme celles qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki.
Mostafa Barghouti, chef du parti Initiative Nationale Palestinienne, interrogé à Ramallah par Sami Boukhelifa. Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures après des raids nocturnes extrêmement violents sur ce bastion du Hezbollah. Le premier ministre libanais demande au monde de faire pression sur Israël pour qu'il s'engage à un cessez-le-feu. En Tunisie, le chef de l'État sortant, Kais Saied, grand favori de la présidentielle organisée ce dimanche, un peu moins de 10 millions d'électeurs tunisiens ont commencé à voter. Ils ont jusqu'à 18 heures pour le faire. On en vient à la politique aux États-Unis avec un temps fort hier dans la campagne présidentielle, à moins d'un mois du vote maintenant. Le retour de Donald Trump à Butler dans l'État-clé de Pennsylvanie, un peu moins de 3 mois après y avoir échappé de peu à un attentat. Reportage de Guillaume Nodin.
La musique du film Top Gun souligne le passage de Trump Force One, l'avion personnel de Donald Trump, au-dessus de milliers de personnes ravies. Quelques minutes plus tard, ses partisans scandent son nom alors que l'ancien président s'apprête à leur parler derrière des vitres blindées. Laurie était là le 13 juillet, elle est revenue écouter la fin du discours.
Je voulais soutenir son cran, sa bravoure, son courage. C'est vraiment lui, c'est un combattant. Et s'il peut prendre une balle pour moi et pour nous tous, je peux revenir et le soutenir, c'est sûr.
À côté d'elle, il y a Ingrid, elle aussi venue écouter la fin d'un discours dont elle retient un message, les Américains d'abord.
Il y a un désastre en cours dans le sud-est des États-Unis et ces gens vont avoir $750 après avoir tout perdu. Mais ils ont trouvé 152 millions ou je ne sais pas combien pour envoyer au Liban. On a de l'argent à envoyer au Liban et $750 pour des citoyens américains et franchement, c'est n'importe quoi.
Pendant ce temps, Donald Trump continue de parler, sauf pour céder la parole à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour un message simple.
Vote, vote, vote.
Voter, même par correspondance ou en avance, et c'est nouveau dans le discours trumpiste. Guillaume Nonin-Butler, RFI.
C'était il y a une semaine et pourtant la polémique ne retombe pas en Belgique après la visite du pape François. Il avait notamment qualifié la loi belge sur l'avortement de meurtrière. Des propos qui ont choqué de nombreux Belges, dont certains songent même à se faire débaptiser. À Bruxelles, pour RFI, Jean-Jacques Herry.
L'époque où l'Église pouvait dicter les lois est révolue. Ces mots, ils ont été prononcés jeudi dernier au Parlement fédéral belge par le Premier ministre Alexander De Croo. Il venait alors d'être interpellé par plusieurs députés inquiets de voir un chef d'État étranger s'ingérer dans les affaires belges, alors même que plusieurs propositions visant à assouplir la législation sur l'avortement sont en discussion à la Chambre. Au sein du monde politique, donc du monde médical aussi, nombreux ont été ceux qui ont exprimé leur colère. Et puis il y a une initiative en particulier qui montre bien la gêne et le ras-le-bol ressenti par beaucoup, celle de Bernard De Vos, ancien délégué général aux droits de l'enfant. Il a fait part sur les réseaux sociaux de son intention de se faire débaptiser et il a été surpris de voir 300 personnes au moins lui emboîter le pas.
Simplement, c'était l'expression d'un coup de gueule. Je ne me reconnais plus dans cette église rétrograde, passéiste et qui ne me convient plus. J'ai suggéré que si d'autres pensaient comme moi, on pourrait peut-être le faire collectivement avec une lettre collective dans laquelle on renonce à notre affiliation à l'église. On est déjà à près de 300 maintenant, je pense.
Une lettre avec le nom des signataires sera prochainement envoyée aux autorités de l'église en Belgique, ainsi qu'au Vatican. Ensuite, chacun d'entre eux devra individuellement agir s'il souhaite aller au bout de sa démarche de débaptisation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Direction maintenant la Côte d'Ivoire, où pour la première fois, c'est une femme qui devient bâtonnière de l'Ordre des avocats. Maître Florence Loine-Messan a pris ses fonctions cette semaine en promettant de rapprocher les citoyens des tribunaux et de la justice en général. Correspondance de Binta Diagne.
Depuis toute petite, Maître Florence Loine-Messan se passionne pour le droit. Elle exerce depuis 28 ans maintenant. Elle s'est notamment spécialisée dans le droit bancaire. Mais aujourd'hui, cette mère de famille, élue à la tête du barreau de Côte d'Ivoire, veut encourager les femmes à s'investir dans ce métier. Pour cela, elle compte améliorer leurs conditions.
Nous avons décidé de modifier le règlement intérieur pour imposer un congé maternel rémunéré pour la femme avocate. Nous avons décidé également de mettre en place des outils de bien-être pour les avocats, pour leur permettre de gérer leur emploi du temps, pour qu'ils laissent une place pour la famille.
Pendant son mandat de 3 ans, cette avocate espère rapprocher les citoyens de la justice. Récemment, le garde des Sceaux a annoncé que le fonds d'assistance judiciaire sera logé au barreau, car jusque-là, cet outil était peu connu et peu utilisé des justiciables.
Nous mettrons en place au sein de la maison de l'avocat le bureau d'aide et d'assistance aux victimes, de sorte que de façon holistique, toute la question des victimes soit adressée aux avocats en collaboration avec les procureurs, la société civile, pour que leur voix soit entendue auprès des tribunaux et qu'ils puissent se défendre.
Avec ses confrères, Maître Florence Loine-Messan compte faire le tour du pays pour des consultations gratuites et s'installer dans les écoles pour initier les collégiens et les lycéens au droit. C'est une manière notamment de les sensibiliser sur les questions de cyberharcèlement. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et pour finir, un résultat de rugby, 2e défaite d'affilée en top 14 pour le champion de France, Toulouse, qui a perdu hier soir chez son voisin Castres, 28-23. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec grand reportage.